BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour, bienvenue. Vous êtes en direct sur BFM Business. Il est 9h31. On est ensemble pour une heure de débat et de controverse. Après les événements de cette nuit, les États-Unis ont de nouveau frappé l'Iran. Téhéran promet des représailles et menace à nouveau le détroit d'Ormuz, par où transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Pourtant, les marchés restent étonnamment calmes ce matin. Le baril est toujours sous les $100, évolue à peine. Alors, les investisseurs sous-estiment-ils le risque géopolitique ou parient-ils sur un conflit contenu? Ce sera le premier thème des débats ce matin. Pendant ce temps-là, l'inflation repart aux États-Unis. Les banques centrales vont-elles devoir durcir le ton au moment même où la croissance ralentit? La BCE se réunit en ce moment même et la Fed, ce sera la semaine prochaine. On va aussi parler d'Eurosatory, le plus grand salon mondial de la défense terrestre qui ouvre ses portes lundi à Villepinte. L'Europe est-elle enfin en train de se réarmer sérieusement ou les ambitions dépassent-elles encore les moyens? Et puis en France, on va parler de la prime d'activité aussi. 4,5 millions de bénéficiaires, mais des effets sur l'emploi jugés incertains par la Cour des comptes. Alors, faut-il repenser cet outil qui nous coûte quand même plus de 10 milliards par an? Et puis enfin, Bruxelles change-t-elle enfin de logiciel? Simplification administrative, paquet Omnibus 4, souveraineté numérique, accélérateur industriel. L'Europe est-elle en train de passer de la régulation à la puissance économique? Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passées de 33 minutes. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne-Charlotte Fredenucci. Bonjour Anne-Charlotte.
Bonjour Raphaël.
Présidente du groupe Ametra. Face à vous, Françoise Benhamou. Bonjour Françoise.
Bonjour Raphaël.
Bon, présidente du Cercle des économistes. Et Patrick Bertrand. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Directeur général des opérations d'Olnest. Alors, je le disais, les événements cette nuit, ce sont les États-Unis qui ont mené à l'aube de nouveaux bombardements contre l'Iran. L'Iran qui a annoncé des ripostes contre les bases militaires au Koweït et à Bahreïn et a promis de prendre pour cible tous les navires s'aventurant dans le détroit d'Ormuz. Finalement, assez peu de réactions ce matin des marchés. Françoise, je commence avec vous, notamment sur le pétrole. Moi, je reste très surpris de ce pétrole qui est sous les $94 en ce moment. On ne franchit plus depuis un moment la barre des $100, alors qu'un tel conflit pourrait le propulser bien au-delà. Qu'est-ce qui explique cette atonie des marchés?
Et qu'on a été récemment d'ailleurs au-delà, hein, donc bien avant la guerre. Et donc qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a un affaiblissement des déclarations, de la force des déclarations. Pourquoi? Parce qu'on en entend, et puis il se passe des choses qui sont moindres que ce qu'on attendait. Donc il y a sans doute une espèce d'accoutumance.
L'accoutumance
à la guerre des marchés,
les altercations.
Sauf évidemment explosion généralisée, mais on n'en est pas là. Mais il n'en reste pas moins que Ormuz, pour reprendre une expression que j'ai lue récemment, c'est le cœur battant de la mondialisation énergétique. Hein. Donc, à la fois, il n'y a pas de réaction, enfin, ou une réaction relativement faible, mais en même temps, prudence, tout peut arriver. Donc on est dans cet entre-deux, et évidemment, ça n'aide pas les anticipations des entreprises et des États.
Oui, Patrick.
Il y a aussi, en complément, plusieurs éléments. Le premier, c'est que la consommation mondiale n'est quand même pas au top du top.
Oui.
Dans un paquet de régions, la croissance n'est pas là. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le cours du pétrole avait beaucoup progressé. Et troisième élément, même s'il y a effectivement cette accoutumance ou cet attentisme, on ne voit pas d'attaques majeures, il y en a eu, sur les capacités de production. Et je pense qu'il y a deux éléments hein, dans cette crise. Il y a la capacité de production,
oui.
Et puis il y a la capacité d'exportation,
les infrastructures,
d'exportation et de diffusion,
que
etc.
La diffusion, hein, même si
on abat complètement les capacités de production, plus on bloque le détroit d'Ormuz, et que, by the way, mais on n'imagine pas que la croissance puisse redémarrer dans ce contexte-là, là, il y aura probablement un gros problème.
Oui, la croissance ne part pas, mais l'inflation, elle, augmente quand même. Alors,
bah oui,
un grand débat d'ailleurs.
Hein.
Est-ce qu'on est en phase d'inflation ou est-ce que c'est un choc de prix? C'est un débat qui divise
les l'inflation sous-jacente. Hein,
oui. Ouais. Anne-Charlotte, commentaire sur...
Il y a un commentaire sur le détroit d'Hormuz.
Oui.
Certes, la question du prix du pétrole se pose, mais la véritable problématique, me semble-t-il, pour les entreprises, c'est que c'est une crise sur d'autres crises et que ça amène de l'instabilité, de la volatilité, de l'insécurité. Je vous donne un exemple. Chez Ametra, nous concevons des systèmes mécaniques, électriques, électroniques pour nos clients, mais nous fabriquons aussi des PC industriels et des bancs de test. Eh bien, avant la crise, il y a 3 ou 4 mois, quand nous demandions à un fournisseur asiatique un prix d'un composant, il était valable 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, lorsque nous ouvrons notre PC le matin et que nous consultons le devis d'un fournisseur asiatique, il faut, avant la fin de la journée en Asie, c'est-à-dire dans 4 ou 5 heures, valider le devis. Ça crée évidemment une grande, grande difficulté à créer du stock pour pouvoir livrer nos clients, etc. Et cette incertitude, cette insécurité est terrible pour le business.
Mais vous venez des sportifs, vous devenez des sportifs de haut niveau, quoi, s'adapter à la permacrise, Françoise.
Il est vrai que la crise porte particulièrement sur les économies asiatiques.
Oui.
Elles sont plus dépendantes que les nôtres,
oui.
De l'énergie qui
vient de ces régions-là. Sur le pétrole et le gaz qui passent notamment là-bas.
Hein.
Oui,
voilà,
c'est 80% effectivement. Et si le pétrole ne manque pas tant, c'est que la Chine aussi a sensiblement réduit, parce qu'elle a beaucoup stocké, effectivement.
Oui.
Donc, c'est plutôt compliqué pour les entreprises qui font du business avec l'Asie, hein, si je comprends bien, beaucoup plus que la zone occidentale.
Dès qu'on touche à l'électronique, et c'est notre cas chez Ametra, on a une instabilité, une insécurité des prix qui est terrible pour les entreprises.
Bon, il y a une période très compliquée qui va être à gérer là pour les banques centrales. Je le disais, la BCE se réunit en ce moment même. On attend une hausse d'un quart de point des taux directeurs, puisque on a ces prix qui augmentent, Françoise, mais on a aussi une croissance qui ralentit en ce moment.
Exactement, c'est toujours le paradoxe. Hein, c'est-à-dire que effectivement, on va être à plus de 3% d'inflation, donc on est au-dessus de la norme qui est celle
de la
BCE,
cible.
La cible, 2%. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les taux vont augmenter. Mais c'est dans un moment où, justement, la croissance est faible et même négative en France, hein, 2 trimestres de suite. Donc, il y a une grande inquiétude sur cet effet qui pourrait, de ce fait, faire que la croissance soit de nouveau négative. Et là, on entrerait en récession. Alors, on n'en est pas tout à fait là, mais c'est vrai qu'il y a une grande inquiétude dans toute l'économie et avec des effets. Les effets sont très importants aussi sur le plan, je dirais, du moral des entreprises et de celui des consommateurs.
Mmh. Résilientes quand même, hein, parce qu'elles sont en permacrise, oui. Et les chefs, oui, d'entreprise continuent à se battre pour la croissance. Mais est-ce que la BCE menace cette croissance, Patrick?
Un point d'interrogation, d'ailleurs, on peut se poser même la question de savoir si on pourrait pas, enfin, si on ne rentrerait pas potentiellement dans une zone de stagflation, c'est-à-dire qu'on ait l'inflation et la stagnation en même temps, qui est un sujet un petit peu différent pour la Federal Reserve Board, parce que la croissance aux États-Unis est plus importante, donc, votre management des taux peut être un peu différent. Donc la marge de manœuvre pour la BCE est rude, difficile et de plus en plus complexe pour les entreprises. Vous l'évoquiez tout à l'heure en parlant de volatilité des prix. On est aujourd'hui dans un contexte où, une fois de plus, on va être confronté non seulement au sujet géopolitique, mais aussi à la volatilité au niveau des taux. Et on sait que le financement, et en sous-jacent du financement et des taux, la confiance,
eh oui,
non pas l'optimisme, mais la confiance ou la prévisibilité devient un facteur majeur de contrainte pour les dirigeants d'entreprise.
Vous anticipez un peu ma question, je vais vous poser une question très bête, mais vous y répondez déjà à moitié.
C'est les réponses.
Est-ce que le chef d'entreprise regarde l'évolution des taux directeurs de la BCE? Est-ce que ça impacte votre business? On pourrait penser que c'est finalement très loin de votre quotidien.
Il regarde le coût du crédit.
Un quart de point, un quart de moins.
Alors,
Anne-Charlotte Fredenucci.
C'est une bonne question, mais si le chef d'entreprise ne regarde pas le taux de la BCE, chez Ametra, le jour où on appelle notre banquier pour dire on a besoin de faire plusieurs millions d'investissements dans notre système d'information, le banquier va nous répondre, ah ben oui, mais la BCE a augmenté ses taux, donc ça va coûter à Ametra tant en plus sur votre compte de résultat. Donc, qu'on regarde ou non, ne vous inquiétez pas, les entreprises sont rattrapées par les taux de la BCE.
Par les services financiers, évidemment, mais est-ce que ça veut dire que si vous entendez Christine Lagarde tout à l'heure annoncer une hausse d'un quart de point, ça va modifier vos investissements à venir dans les 6, 12, 18, 24 mois à venir?
Chez Ametra, on a la chance d'être dans des secteurs d'activité, défense, aéronautique, nucléaire, qui sont en forte croissance.
Secteur plutôt
porteur. Mais si on prend, si on met à part le cas d'Ametra et que je vous réponds avec une casquette chef d'entreprise un peu plus neutre, la réponse est oui, nécessairement, parce qu'on sait très bien, en tant que chef d'entreprise, tout ce que l'augmentation des taux de la BCE a comme impact en termes de confiance sur l'investissement, confiance des ménages, etc. etc.
Et un secteur, pardon, un secteur qui en pâtit énormément, évidemment, de la question des taux, c'est l'immobilier.
Oui,
et ça c'est essentiel.
Un secteur qui est déjà pas très en forme.
Bien sûr. Mais pardon,
Patrick.
Oui, sur le sujet, oui, on a l'effet immédiat de contact avec les banquiers, donc ça c'est clair. Alors, qui est un peu différent lorsqu'on est entreprise excédentaire en trésorerie, puisque là il y a le sujet du placement.
C'est le grand sujet de la trésorerie, évidemment.
Mais sur le fond, vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Sur le fond, on sait que ça a un effet immédiat sur les coûts d'approvisionnement, parce qu'il y a des sujets de taux de change qui sont impactés par l'évolution des taux en fonction des différentes zones. Donc même quand on fait un budget en début d'année et que sans être vraiment exportateur, mais que on se fournit et on s'approvisionne à l'étranger, dans le budget vous devez intégrer votre parité pour être à peu près sûr que vous allez arriver à la fin de l'année positif. Et naturellement, les taux directeurs ont un impact évident sur les parités des monnaies.
En Europe et peut-être aux États-Unis. Aux États-Unis où l'inflation est au plus haut depuis trois ans, Françoise, et on attend la semaine prochaine la décision, la première décision de Kevin Warsh à la tête de la Fed.
Exactement.
Ça va être compliqué pour lui.
Et on a la guerre Trump, si je puis dire, contre la Fed. Donc ce sera compliqué.
Enfin, Trump qui vient de dire qu'il adorait l'inflation tout d'un coup. Ça, c'était hier.
Ça, j'ai pas entendu.
Mais qui promet qu'elle va retomber très, très vite. Vrai sujet politique.
C'est un sujet politique, c'est un sujet États-Unis. Économique et c'est un sujet mondial.
Bon, on attend d'ici, deux heures et demie, la décision de la BCE, très probable augmentation de 0,25 points de PIB. Bon, avec une croissance qui s'annonce compliquée, les prochains mois le seront probablement aussi. Allez, je voulais qu'on parle du salon Eurosatory ensemble, le plus grand salon mondial de l'armement terrestre, qui ouvre ses portes lundi à Villepinte. Il se tiendra du 15 au 19 juin. Il est placé cette année sous le signe, évidemment, des nouveaux rapports de force mondiaux. L'événement s'articulera autour d'une ambition claire, nous dit le ministère des Armées, se préparer, s'engager et vaincre en coalition aéroterrestre. Vous êtes, vous faites partie de la base industrielle technologie et défense, Anne-Charlotte Fréducci. À quoi il faut s'attendre dans cette édition ? C'est une édition forcément particulière.
Alors, ça sera une édition forcément particulière. Ametra expose au salon, donc nous allons être acteurs et spectateurs au premier plan de ce salon. Ça sera une édition particulière parce que c'est une édition de tous les records en termes d'exposants, en termes de visiteurs, en termes de délégations, ce qui démontre un intérêt fort du politique pour le sujet de l'économie de défense, de la défense en général. Et ça démontre aussi un intérêt de nombreux pays étrangers pour les systèmes qui seront exposés à Eurosatory, qui sont notamment des systèmes français et européens. Ça sera une édition particulière aussi, parce que nous aurons 80 exposants ukrainiens.
Eh oui, ils étaient 10 il y a quelques années encore. On a multiplié par 8 le nombre de représentants ukrainiens à Eurosatory.
Absolument. Et donc, ça pose une question politique, nous l'évoquions tout à l'heure. Quelle sera demain, au lendemain du conflit, la place de l'Ukraine dans l'Europe de la défense ? Est-ce que c'est l'Ukraine qui a besoin de l'Europe pour se reconstruire au lendemain du conflit ? Est-ce que c'est l'Europe qui aura besoin de l'Ukraine, qui sera la première armée européenne tant en termes de soldats entraînés au combat qu'en termes de systèmes développés de manière ultra rapide, de manière très économique et de manière adaptée au conflit d'aujourd'hui ? C'est une question et je pense que Eurosatory nous apportera un élément de réponse et Ametra est impatient de participer à la conclusion de d'accords éventuels avec ces sociétés présentes.
Je vous disais 80 sociétés ukrainiennes contre 10. Il y a quelques années, non, c'était en 2024. En deux ans, on va passer de 10 à 80 sociétés ukrainiennes présentes. Une autre question pour vous, Anne-Charlotte. La Direction Générale de l'Armement, qui est le grand donneur d'ordre en France, a promis, il y a déjà 12 à 18 mois, qu'il allait donner de la visibilité aux entreprises de la BITD, de la base industrielle de technologie et de défense en France. On a l'impression que ça tarde à venir, cet allongement des commandes, cette visibilité pour les entreprises de l'armement en France, qui, je le rappelle, sont majoritairement des PME, hein. C'est pas forcément des grands groupes.
Absolument. Chez Ametra, on est 450, on est une grosse PME, une petite ETI, comme vous voulez. Et je vous confirme que la visibilité des commandes tarde à venir. La loi de programmation militaire n'est sans doute pas à la hauteur des ambitions en matière de défense que nous nous donnons.
Ah oui, pourtant elle a beaucoup augmenté, cette loi de programmation militaire.
Oui, mais nos ambitions ont augmenté très fortement également, puisque nous constatons, nous, France, constatons que le conflit est maintenant aux portes de l'Europe et qu'il est nécessaire, certainement, pour protéger nos valeurs, nos frontières, d'augmenter encore davantage ce budget.
François oui, je voudrais rebondir sur ce que vous dites qui est très important. Alors, d'une part, sur l'Ukraine, hein, c'est vrai qu'il y a des compétences, elle a acquis des compétences incroyables, notamment pour les drones, et ça nous pose la question, je n'en suis pas spécialiste, je parle sous votre contrôle, mais de quelle est la bonne répartition en matière d'armement, quels sont les armements de demain ? Et est-ce qu'on ne fait pas d'erreur là-dessus ? C'est très difficile d'anticiper. Mais l'Ukraine nous a montré qu'il y a des changements qui sont fondamentaux. Puis le deuxième point sur la loi de programmation militaire, je regardais la part des dépenses militaires en proportion du PIB. En France, entre 1950 et 2021, on est passé de 7,57% du PIB à 2,02. Et là, on remonte lentement à 2,5 et avec des projections qui sont un peu plus élevées. Mais on voit que c'est lent, la remontée, dans un contexte géopolitique qui est quand même extrêmement menaçant.
Bon, ce qui pose la question des moyens financiers.
Exactement.
Là, et l'état de nos finances publiques. Hein,
voilà, mais il y a des choix très forts là qui sont sans doute à faire et qui posent la question du politique.
On parle beaucoup de la justice en ce moment aussi, hein, des moyens alloués à la justice, qui pourtant est un ministère dont les crédits ont beaucoup augmenté, mais on voit qu'on n'est pas au rendez-vous des besoins. Hein,
j'ajoute un point sur les dépenses militaires qui est très important, c'est l'effet sur l'innovation, qui n'est pas du tout négligeable. Il y a des papiers académiques là-dessus qui sont très intéressants, et notamment du CEPR, de Philippe Aguillon et d'autres, et qui montre à quel point l'innovation dans le domaine de la défense peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Ça aussi, c'est important. Rappelons-nous, le GPS, l'Internet, leur origine est militaire.
C'est la base de la DARPA aux États-Unis, hein, qui sert de l'innovation. Patrick, vous souhaitiez réagir.
Le fond aussi des choses, il y a l'outil, les armements, quel type d'armement, mais pour quelle vision stratégique ? Et l'échec de l'avion du futur, qui a été annoncé, dont on parle beaucoup dans la presse, est vraiment très significatif à cet égard. C'est-à-dire que comment, dans un contexte où des pays ont des approches différentes, par exemple la France a l'approche dissuasion nucléaire que l'on connaît, l'approche capacité de déploiement de forces armées à l'extérieur de façon autonome, l'Allemagne beaucoup plus dans une logique de défense du territoire, et ça fait un avion totalement hybride, parce que il faut un avion qui puisse atterrir sur les porte-avions, transporter les bombes nucléaires, mais de l'autre côté être à l'appui de troupes au sol, etc. Donc le sujet des outils est extrêmement intéressant, et notamment cette émergence de ce qu'on appelle la guerre hybride et la remarquable réactivité, réaction et compétence de l'Ukraine. Mais au passage, on repose de nouveau le sujet d'une stratégie au niveau européen. Et on restera en retard tant qu'on n'aura pas une stratégie commune. Aux États-Unis, il y a un client, l'armée, il y a une stratégie, il y a un territoire.
Oui.
Là, on a des stratégies de nature
nationale, politique
différentes.
Et,
et donc, du coup, on augmente les coûts, parce que le coût de l'avion du futur était augmenté de cette accumulation de réponses
à des besoins
différents émis par les différents pays. Donc, il y a un sujet fondamental de gouvernance et de stratégie. On en revient, on l'a beaucoup évoqué sur ce plateau, à la cohérence de la stratégie européenne. Quand est-ce qu'on se mettra à peu près d'accord, et à partir de là, enfin, c'est comme si dans une entreprise avec 8 ou 10 filiales, on décide de lancer un nouveau produit, et la filiale X vous dit oui, mais le produit, il faut qu'il soit de telle façon. La filiale Y vous explique que son client, non. Et donc, vous faites un produit qui est plus un bon produit parce que vous faites une espèce de quelque chose de totalement hétérogène et qui répond plus directement aux besoins.
Ou un produit qui ne sort pas tout simplement.
Ou un produit qui n'est pas acheté parce que finalement il est pas bon. Comme il a voulu, c'est un peu un nivellement par le bas. Comme il a voulu répondre à tous les besoins, il n'est plus performant pour le besoin X exprimé.
Quelle leçon vous tirez de l'échec du SCAF, Anne-Charlotte Renéucci?
Ce qui est sûr, c'est que on est parti avec une belle idée en tête. Il y avait une volonté politique qui a été exprimée entre la France et l'Allemagne, mais finalement, cette volonté politique ne s'appuyait pas sur un cahier des charges industriel cohérent. Il est vrai qu'en France, nous avons un porte-avions, nous avons une arme de dissuasion nucléaire à faire porter par nos avions. Ce n'est pas le cas des Allemands. Et dans cette volonté politique, on a, me semble-t-il, un peu oublié d'associer les industriels dès l'origine. Or, s'il n'y a pas de cohésion entre les industriels, de coopération entre les industriels, et s'il n'y a pas d'alignement des besoins des forces armées, il n'y a pas de coopération possible.
Alors, il y a aussi sur ce sujet, mais attention, parce que on n'est pas dans le cœur des négociations et de tout ce qui s'est passé. Mais nous avons aussi une vraie question, c'est que la France est très très en avance sur l'aspect technologique, donc il y a une notion de propriété intellectuelle, et l'Allemagne a une capacité industrielle tout à fait remarquable. Mais entre la propriété intellectuelle et la capacité industrielle. Et deuxième élément, on se retrouve dans un schéma où nos partenaires allemands disent « Mais comme on finance, on devrait avoir droit à l'accès à la propriété intellectuelle. » C'est comme si un fonds d'investissement dans une entreprise vous expliquait que « On va bâtir quelque chose ensemble, mais comme je te finance, la propriété intellectuelle, il faut aussi que je l'ai. » Non, ça ne marche pas comme ça.
Dassault étant le seul à avoir ce logiciel de stabilisation des avions de chasse avec un acteur américain dont j'ai oublié le nom, et qui ne voulait pas le transférer, effectivement.
On en revient aux intérêts qui ne sont pas des intérêts communs.
C'est vrai que la volonté politique, comme vous l'avez dit, madame, ne suffit pas, mais en plus, elle a plus ou moins disparu. Et donc, c'est un sujet. Alors, on cherche d'ailleurs d'autres partenaires, des partenaires européens de substitution. Je pense aux tractations avec ça, par exemple. Donc, c'est pas fermé l'Europe de la défense, mais on voit bien que ce sont des partenariats un à un, et on n'a pas une logique de défense européenne pour l'instant, et on en est très loin, malheureusement.
Vous pourriez faire, vous, des opérations chez Ametra de croissance externe européenne?
Oui, évidemment. Ametra est allé s'implanter en Tunisie et en Inde pour accompagner ses clients. Alors, lorsque nous avions des usines que nous avons cédées l'année dernière pour faire un recentrage stratégique sur les activités de bureaux d'études, mais nous regardons aujourd'hui une implantation en Belgique parce que nos clients de la défense en ont besoin, voire une implantation en Allemagne. Donc oui, évidemment, nous irons là où les clients d'Ametra nous entraînent.
Ce que je vous entends là, c'est que cette consolidation européenne, elle doit se faire par l'industrie et par les acteurs de l'entreprise avant de lancer par le politique, en réalité.
En parallèle, à mon avis, il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique et il faut des coopérations industrielles qui aient du sens, qui créent de la valeur et qui répondent à l'expression de besoins politiques.
La Suède nous a acheté 4 frégates récemment. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent arriver et qui peuvent se passer. C'est vrai que la volonté politique est indispensable, mais ça doit se négocier en même temps, l'industrie et le politique.
Oui. Et le politique, et qui doit aussi mettre les voies et moyens, les conditions de l'essor d'une industrie européenne. Faciliter un peu le travail, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Juste avant la coupure pub, je voulais qu'on touche un mot. Tous ces sujets, on va en parler aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Françoise.
Bien entendu, premier week-end de juillet, comme chaque année.
Rappelez-nous les dates.
Énormément de monde, les 2 et 3 juillet. Il y aura notamment, il y aura 3 grandes thématiques qui vont ressortir. Celle de la jeunesse, essentielle. La géopolitique, bien entendu, avec toutes les questions qui se posent, les reconfigurations Nord-Sud notamment, et puis le troisième élément, est-ce qu'on peut encore parler de progrès et comment et en quels termes? Et donc ce seront les 3 thématiques centrales.
À un moment particulier qui est le lancement de la présidentielle aussi, j'imagine qu'on aura beaucoup d'acteurs politiques qui vont venir.
Évidemment, on aura beaucoup d'acteurs politiques, on a beaucoup d'acteurs étrangers qui pourront nous éclairer aussi, des ministres, des gouverneurs de banques centrales, etc. Vraiment, on a de très belles rencontres qui se préparent.
Bon, eh bien, rendez-vous les 2 et 3 juillet à Aix-en-Provence pour les rencontres économiques. Disponibles, évidemment...
Sur Internet.
Sur Internet, pour ceux qui n'auront pas la chance de s'y déplacer. BFM Business. Business y sera bien sûr dès la matinale. Les experts, deux émissions spéciales en direct d'Aix-en-Provence avec plein de beau monde sur le plateau. Ne ratez pas cet événement, bien sûr, qui clôture l'année économique en général. Et prépare la suivante, absolument, qui s'annonce absolument passionnante. Allez, ne quittez pas, on va revenir sur des questions un peu moins militaires en deuxième partie. On va revenir notamment sur ce rapport de la Cour des comptes qui s'est penché sur la prime d'activité, une prime d'activité qui coûte plus de 10 milliards et qui, estime la Cour, aurait des effets sur l'emploi qui ne sont pas démontré. On va décortiquer ça ensemble. Et puis, on reviendra sur la présentation par Bruxelles. On parlait de cette consolidation européenne. Bruxelles qui essaie de simplifier la vie des entreprises. Un nouveau paquet omnibus a été présenté par la Commission. On verra ce qu'il recouvre. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h passé de 58 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est la seconde partie des experts, avec toujours autour de la table Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Allnest, Françoise Benamou, présidente du Cercle des économistes, et Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra. On va parler de ce rapport ensemble, les amis, de la Cour des comptes. Alors, qui dit rarement du bien quand la Cour des comptes se penche sur un sujet, c'est en général pour l'étrier, c'est un peu le mot qu'on utilise en presse écrite, parfois de manière abusive d'ailleurs, parce qu'il arrive à la Cour de dire des bonnes choses aussi, mais plus rarement. Cette fois-ci, c'est donc sur la prime d'activité, une prime d'activité qui a beau avoir été pensée pour encourager le travail des Français aux faibles ressources, aux bas salaires, la Cour nous dit, Françoise, que ses effets sur l'emploi ne sont pas démontrés.
Oui.
C'est quand même bien dommage, parce que ça touche 4,5 millions de personnes.
10 milliards.
Et
10,7 milliards.
Et ça coûte un petit 10 milliards d'euros. Oui. Voilà.
Alors, c'est pas toute la prime hein, qui est mise en question, mais c'est vrai qu'il y a un chiffre qui m'a frappé, moi, dans ce rapport. C'est que 14% des personnes interrogées ont dit qu'elles étaient retournées dans l'emploi sans prendre en compte, sans même savoir d'ailleurs qu'elle existe, probablement, la prime d'activité. Donc, il y a une question. Alors, 14%, c'est pas rien. Hein, mais enfin, quand même, il y a une question sur ces 10,7 milliards. Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Est-ce qu'ils sont bien fléchés? Est-ce qu'il ne faut pas recentrer pour limiter le nombre d'allocataires sur ceux sur lesquels ce serait efficace? Et puis, quand il y a comme ça une prime, il faut que les gens qu'on vise et pour lesquels on vise quelque chose, parce que c'est une incitation au retour à l'emploi pour les gens qui ont des revenus modestes et qui seraient tentés de rester dans un système d'aide publique, etc. Est-ce que ça marche? Et bien pour que ça marche, il faut d'abord qu'ils soient au courant du fait que ça existe aussi.
Et oui.
Donc voilà, il y a tous ces éléments-là, donc c'est pas un rejet total, c'est un recentrage qu'elle propose.
Bon, un peu comme les aides à l'apprentissage.
Exactement.
En tant que chef d'entreprise, est-ce que vous constatez un effet? Alors j'imagine que dans l'industrie de la défense, les salaires sont plutôt des salaires élevés. On n'est pas forcément autour du SMIC, mais quelle expérience vous avez eue, vous, de la prime d'activité, si vous en avez eu une auprès de salariés?
Alors, chez Ametra, on n'a pas une expérience directe de la prime de retour à l'emploi, mais moi, retourner à l'emploi, je trouve ça très bien. J'y suis philosophiquement favorable. En revanche, il faut bien expliquer que ces 10,7 milliards, on les prend quelque part d'un budget autre. Donc, in fine, ça alourdit aussi, ça entache notre compétitivité. Or, dans l'industrie, on est face à une compétitivité mondiale. Chez Ametra, quand on remet un prix pour un projet de développement d'un nouveau système à Thalès, on est en concurrence contre des sociétés indiennes, mexicaines, etc. Et si notre capacité à, si notre coût de l'emploi est grévé de toutes sortes d'aides qui sont en plus partiellement efficaces seulement, eh bien, ce sont des contrats que nous ne gagnons pas et donc des emplois qui partent à l'étranger.
Ouais. Patrick, bon, c'est une aide au retour à l'emploi plus qu'une dépense de non-activité.
Oui, c'est
ça va dans le bon
pour
sens.
Dire j'accepte un emploi qui est un peu sous-payé, donc je suis complété. Mais pour rebondir sur ce que vous évoquez, il y a une solution. Hein. Vous réduisez les cotisations sociales payées par les entreprises qui viennent financer la CAF, qui finance la prime d'activité. Et croyez-moi, les entreprises seront ravies d'augmenter les salaires et de faire en sorte que, pour un coût d'ailleurs beaucoup moindre, et de faire en sorte qu'elles soient attractives et que les personnes qui cherchent un emploi reviennent à l'emploi. Hein. Donc on est dans un système, et sans avoir lu en détail le rapport de la Cour des comptes, on oublie quand même un point qu'ils ont très largement soulevé, qui est la gestion.
Oui.
La qualité de la gestion.
Oui.
Le nombre
Encore
d'erreurs.
Encore et toujours.
Si je dis pas de bêtises, je crois que la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de la CAF au cours des deux dernières années.
Absolument.
À l'intérieur de cela, il y a la gestion de la prime d'activité. On revient sur le sujet de l'efficacité et de l'efficience, de la dépense publique. Et le point qui révolte quand on lit, et encore une fois, j'ai pas lu en détail, mais quand on lit des quelques extraits, etc., c'est oui, on a compris que ça coûtait tant, etc. Mais c'est le fait que c'est truffé d'erreurs et qu'il y a des erreurs partout dans un monde qui est hyper digitalisé, où on peut arriver globalement, c'est compliqué, mais assez facilisé les situations personnelles, puisqu'il faut faire une déclaration de situation personnelle pour valider que vous êtes bien dans le niveau de rémunération qui vous donne droit à ces éléments-là. Une fois de plus, mais combien de fois sur ce plateau avons-nous abordé sur des sujets totalement différents cette vraie question? Et cette vraie question qui amène souvent à dire « Oh, c'est peut-être inutile, c'est peut-être pas très utile, c'est juste que c'est utile, mais c'est mal géré. »
Françoise Benhamou.
Mais que les aides publiques doivent être évaluées pour vérifier si elles sont efficaces, ça c'est une évidence.
Évidemment.
Après, transférer, si vous voulez, les aides sociales vers l'entreprise de manière systématique en baisse des cotisations, ça n'est pas nécessairement la même efficacité qui est souhaitée, qui est recherchée. Donc là, c'est une question d'évaluation des politiques publiques.
Oui.
Moi, je crois que c'est surtout ça le problème.
Ce qui n'est pas toujours très simple.
Voilà, c'est pas toujours simple.
Compte,
et
ça.
C'est vrai qu'on est dans la contradiction entre le politique et l'économique, puisque Sébastien Lecornu a légèrement augmenté, si je ne me trompe, cette prime d'activité.
Elle a augmenté dans l'année.
Tout à fait récemment, voilà. Donc
budget,
là, cette réflexion, il aurait fallu l'inverser, c'est-à-dire commencer à regarder comment on rationalise et comment on la rend la plus efficace, la prime d'activité, et ensuite voir si on augmente, si on baisse, si on transfère, etc.
Non, mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que la Cour des comptes sorte maintenant ce rapport, alors qu'on vient de décider d'une augmentation de 50 euros, je crois, de la prime d'activité.
Pas le même tempo.
J'étais provocateur pour à dessein dans ce que j'évoquais tout à l'heure, mais quand même, réfléchissons sur le fond. La prime d'activité est là pour compenser des salaires
ben
qui
oui.
sont trop bas. Et pourquoi sont-ils trop bas? C'est parce que par rapport au coût réel du salaire dans l'entreprise, eh bien, ce qui est versé aux salariés est très très loin de ce que ça coûte à l'entreprise. Donc, il faut qu'on
arrive. Le sujet majeur de la présidentielle, rapprocher le brut du net.
Bien sûr, la réponse, elle n'est jamais dans tout à droite, tout à gauche, si je peux employer cette expression. Mais clairement, il y a du tuning et si on pouvait sur bien des sujets, vous avez parlé du budget de la justice tout à l'heure, reparler d'efficacité et de priorité dans les fonds qui sont affectés avant de parler de la réduction des 10 fonds.
Oui, ou de l'augmentation, parce que le grand sujet sur la justice, c'est faut-il plus de moyens. Or, ce qu'on constate, c'est que derrière la défense, le budget de la justice est celui qui a le plus progressé depuis 2017, hein, près de 60% d'augmentation depuis 2017. On arrive à peu près dans la moyenne européenne en termes de dépenses par habitant. On manque de procureurs et de juges encore. Mais ce que disent les procureurs, on en a beaucoup parlé ce matin dans la matinale de BFM Business, c'est que à chaque sujet, ça devient une priorité nationale. À chaque crise médiatique, violence familiale, terrorisme, narcotrafic, des circulaires du ministère de la Justice sont déployés pour dire aux juges tel sujet est la priorité. Et quand tout est prioritaire, ce que disent les magistrats, bah plus rien ne l'est vraiment.
On n'a jamais eu autant besoin de priorité, me semble-t-il, puisque on est dans une situation où les finances publiques sont limitées, et en même temps, la situation politique fait que les priorités vont dans tous les sens, et que le quoi qu'il en coûte, il en reste quelque chose dont on n'arrive pas à se débarrasser dans notre pays.
Patrick,
Et sur ce que vous évoquez, pardonnez-moi là, parce que je ne pouvais pas ne pas. Si cette source est de qualité, c'est la source de la Commission européenne, budget de la justice. On est un petit peu il a beaucoup augmenté. On est un petit peu en dessous de la médiane européenne.
Oui.
Mais En nombre de juges professionnels pour 100 000 habitants, on est à 11 alors que la médiane est à 18.
Oui.
Et en nombre de procureurs, on est à 3,2 alors que la médiane est à 11. L'argent, là, il est où? Il est pourquoi? Et de sujet, une fois de plus, de gestion. Alors que, encore une fois, vous avez raison de souligner, ça a augmenté de façon considérable au cours des 6 à 8 dernières années. Là encore, on est dans des sujets de priorité.
Et bon, l'organisation juste pas être des politiques
long,
publiques.
C'est le même sujet, on l'avait évoqué à plusieurs reprises au moment du Covid. Dépenses de santé France-Allemagne, par rapport au PIB à peu près équivalent, grosse différence, entre 8 et 10% de plus de non-soignants dans le budget de la santé français.
Bon, on va revenir sur les salaires, mais c'est quand même absolument passionnant. Ça pose la question du périmètre de l'action publique et de l'État, hein, qui peut-être se dilue au fur et à mesure des années.
De l'action au jour le jour, pas du périmètre, sur, de l'action au jour le jour.
Eh oui, sur les fonctions de base. Je voulais qu'on vienne, Anne-Charlotte, qu'on continue sur la question des bas salaires. Vous savez qu'il y a eu toute cette polémique sur le gel des allègements de charges annoncés, confirmés par Bercy suite à la hausse du SMIC, des allègements de charges qui explosent avec l'inflation puisqu'elles sont indexées aussi sur le SMIC, plus 30 milliards, si je ne dis pas de bêtises, depuis 5 ou 6 ans. Est-ce que ça vous impacte? Le MEDEF est hors de lui, le patronat de manière générale, en disant c'est 2 milliards d'hausse d'impôts en plus sur les entreprises. Est-ce que vous, ça vous impacte dans votre politique d'emploi, ce gel des allègements de charges qui vont de 1 à 3 SMIC, je le rappelle?
Chez Ametra, nous avons maintenant une concentration sur des emplois plutôt de type technicien et ingénieur. Donc il n'y a personne dans le groupe Ametra qui soit au SMIC ou proche du SMIC. Mais tous les sujets de rémunération, de gel des allègements, d'alourdissement des charges, touchent toutes les entreprises.
De tuyauterie fiscale ou sociale.
Voilà, de tuyauterie fiscale ou sociale, comme vous dites, complexe et coûteuse, tous ces sujets touchent l'ensemble des entreprises de France. Parce que finalement, il y a un tassement. Lorsque le SMIC monte ou que les allègements baissent sur le SMIC, il y a un alourdissement du coût du travail.
Et oui.
Qui va coûter davantage lorsqu'on va, par exemple, passer commande. Je disais, nous avons essentiellement des ingénieurs chez Ametra, nous concevons des systèmes innovants, mais nous les faisons fabriquer dans notre supply chain, chez nos fournisseurs. Donc, lorsque nous rendons un prix à un client, c'est un prix qui intègre le coût de nos ingénieurs et le coût de fabrication de nos fournisseurs qui, eux, ont des salariés qui sont proches du SMIC. Donc, évidemment, il y a un impact sur la compétitivité globale des entreprises, notamment industrielles, pour le secteur que je connais.
Et puis, un effet tassement des salaires, Françoise, aussi.
Oui,
non,
les salaires,
la prime d'activité
les salaires sont
concourt
faibles,
à ça aussi.
Et il y a toujours des effets de seuil sur ces allègements de charges qui fait que, du coup, on les augmente, Et donc, là, il y a une réflexion, me semble-t-il, d'ensemble qui doit être faite au niveau des entreprises et au niveau macroéconomique aussi, sur le partage de la valeur, tout simplement, et la part des salaires. Et c'est vrai que les salaires, ensuite, c'est la consommation.
Est-ce que ça bouge en France, ça, beaucoup, la part des salaires dans la valeur ajoutée?
Non.
Parce qu'il y a un débat, Oxfam a publié cette semaine un rapport sur les 100 plus grands groupes européens, en disant qu'ils nourrissaient les inégalités parce que 70% du résultat des 100 premiers groupes européens partait en dividendes. On l'a décrypté ici sur l'antenne de BFM Business en disant que, évidemment, si on se concentre sur le résultat net, c'est normal que ce ne soit que les dividendes, mais que si on prend l'ensemble de la valeur ajoutée, les salariés sont de très loin les premiers bénéficiaires, puisque c'est 60% de la valeur ajoutée. Mais est-ce que vous soulevez ce débat-là, Françoise, pour dire que la répartition capital-travail n'est peut-être pas assez juste?
Il y a toujours ce décrochage entre la réflexion macro et puis ensuite ce qui se passe dans les différents types d'entreprises et où là, on est dans le concret et où la question du partage de la valeur va se poser de manière différente. C'est quand on est au niveau macro, c'est vrai qu'on voit notamment dans les grandes entreprises, effectivement, elles vont bien dans l'ensemble pour l'instant. Et donc, c'est vrai que du coup, il y a un avantage au capital, si je puis dire, mais c'est vrai qu'en même temps, les salaires sont faibles et c'est un sujet récurrent dans notre pays.
Bon. Sujet de la prospérité globale. J'ai Alternance, merci Alternance, qui nous fait une petite correction sur les comptes. Alors, les comptes de la Sécu, mais non, on parle bien des allocations familiales. Ces comptes ont été certifiés cette année pour la première fois depuis 6 ans.
Voilà, c'est les dernières années. Merci pour la précision. Voilà. C'était les dernières années.
Merci effectivement de cette précision. Mais je veux qu'on continue sur ce débat.
Le sujet de du partage de la valeur, il est très largement partagé par les dirigeants d'entreprise. Et d'ailleurs, à noter que ce qui a été intégré dans la loi est venu d'un accord entre les partenaires sociaux de toutes origines. Et quand on parle de montant, alors peut-être que on va me redire que c'est
on pas fait du fact-checking en direct avec
mais
les
voilà fact-checking experts, c'est en gros de l'ordre de 26 à 27 milliards participation et intéressement, et ça représente 8 à 9 millions de salariés. Et ça doit être un peu plus de 50%, même beaucoup plus que 50%.
Les actionnaires ne sont pas tous sur des yachts à fumer des gros cigares. C'est aussi des salariés, des retraités, des épargnants.
On est dans un schéma où, quand on parle des dizaines de milliards de dividendes, on a l'impression que il y a rien pour les salariés, sauf que les dividendes, comme vous l'avez très bien mis en évidence, ils viennent après le fait que les salariés évidemment reçoivent leur salaire.
C'est bas du compte des résultats.
Mais et aussi droit à un partage de la valeur. Donc voilà, il faut remettre les sommes en parallèle et en rappelant cette part dans la valeur ajoutée, parce que encore une fois, une entreprise, elle marche parce qu'il y a des gens qui financent et parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et d'abord parce qu'il y a des gens qui travaillent. Donc ce travail, il est rémunéré d'abord avant tout le monde, y compris avec l'intéressement à la participation. Et puis quand il y a un résultat, on rémunère l'apport du capital.
Oui. Et puis les entreprises, pour bien travailler, il faut qu'on leur fiche la paix aussi et qu'on allège un peu les contraintes, parfois, pour davantage de production, de rentabilité. Bref, laissez faire les entreprises. C'est évidemment le mot d'ordre sur BFM Business. Et bien justement, on a une bonne nouvelle et on va terminer sur cette bonne nouvelle l'émission. Ce sera le dernier débat aujourd'hui. C'est la présentation du paquet Omnibus 4 par la Commission européenne. Je ne sais pas si vous aviez vu passer les trois premiers, mais elle concerne les entreprises comme Ametran, Charlotte Fredenucci, puisque ça concerne les PME et les ETI. Vous êtes juste entre les deux. Est-ce que vous avez pu regarder ce qu'il contenait, ce paquet omnibus de simplification présenté cette semaine par la Commission?
Oui, j'ai regardé de loin, mais tout ce qui relève de la simplification et de l'allègement des contraintes va dans le bon sens, évidemment. Alors, qu'on soit très clair, l'objectif n'est pas de laisser les entreprises se comporter comme des cow-boys dans le Far West d'il y a 200 ans. Chez Ametra, on a une politique ESG ambitieuse, on est certifié EcoVadis, on mène un certain nombre d'actions qui pourraient, dans un certain cas, nous être imposées par des réglementations bruxelloises. Donc, l'objectif n'est pas de ne rien faire en matière de ESG, de compliance, de décarbonation, etc. Mais l'objectif est de laisser les entreprises se débrouiller seules et mener à bien des actions qui soient différenciantes. Si l'Europe nous impose à tous un bilan carbone, le bilan carbone que nous avons réalisé chez Ametra n'est plus un engagement ESG, mais ça devient simplement un respect de la réglementation.
Oui,
je trouve ça dommage. Donc oui, j'ai regardé le package Omnibus 4. J'espère qu'il continuera à alléger nos contraintes et qu'il nous permettra d'être un peu plus libres.
Françoise.
Oui, alors c'est une ancienne. À chaque fois, on revient sur la question de cette baisse des normes et des réglementations. Et à juste titre, elles sont lourdes, elles sont complexes dans tout domaine. Moi, je l'ai vécu dans l'université.
C'est une ancienne récente, tout de même, au niveau européen. Bruxelles avait plutôt tendance à surréglementer.
Alors, c'est depuis février 2025, ces omnibus, omnibus qui ont un drôle de nom d'ailleurs, qui sont des trains de mesure, ont été adoptés. Alors, ça touche la durabilité, ça touche la politique agricole, ça touche les produits chimiques, et il s'agit de simplifier les exigences, de reporter les dates d'application de certaines mesures réglementaires un peu complexes, d'avoir un traitement allégé pour les PME et les ETI. Donc c'est très intéressant tout ça,
promet, la
avec
commission.
Quand même un petit bémol, attention, il ne faudrait pas abandonner, si je puis dire, les questions d'économie verte,
qu'on détricote aussi.
Voilà, et on a tendance à les détricoter au prétexte de cette question de réglementation.
Patrick.
Alors, simplifier, ça n'est pas déréglementer. On confond toujours le fait que réglementer, c'est rendre complexe la vie des entreprises. Et vous l'avez très bien souligné, on pourrait très bien, et c'est le rôle de l'État et de la Commission européenne de donner l'impulsion, c'est-à-dire avoir une loi qui dise les entreprises doivent déclarer leurs objectifs de décarbonation et après laisser les entreprises, et notamment les fédérations, parce que l'empreinte carbone, elle est différente selon les métiers, les laisser, comme on l'a fait pour le partage de la valeur, les laisser établir les bons dispositifs. Donc vraiment faire en sorte que on allège, mais le but, on simplifie, et le but, c'est pas déréglementer. Tous ces paquets omnibus que vous avez parfaitement souligné, du 1 au 4, pour moi, ils révèlent quand même un vrai changement de paradigme. C'est que peut-être que, enfin, la Commission européenne comprend que dans sa réglementation, la compétitivité doit devenir un élément majeur,
oui,
plutôt que l'efficacité. On l'a vu au moment du sujet Mercosur, ce sujet de la concurrence réglementaire est un truc qui est terrible. C'est comme dans une classe, si y a des bons et bonnes élèves qui respectent les règles, etc., puis qu'à côté, y en a qui trichent un peu, qui arrivent à un niveau supérieur à celui qui a bien respecté. Et donc, ça,
c'est ce qu'on appelle le level playing field.
Voilà. Et puis dernier sujet, oui. Les omnibus ne s'accompagnent pas d'un robinet de réglementation nouvelle qui continue à couler, on sera dans un bon chemin.
Françoise.
Oui, on pense au rapport Draghi, hein, qui montre extrêmement bien à quel point il y a un déficit de compétitivité quand on compare l'Europe prise dans son ensemble aux États-Unis, par exemple, hein, qui est de l'ordre de 20%. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, est-ce que Omnibus répond un peu à cela? Sans doute un petit peu, mais ça n'est pas que cela. Hein. Mmh. Il y a un problème de compétences, etc., d'organisation, etc.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que ces directives, pourquoi pas, avec ce bémol, moi j'insiste beaucoup quand même sur le fait qu'il faut faire très attention à tout ce qui est économie décarbonée, etc. D'autant plus qu'on en aura besoin avec ce qui se passe, pour y revenir un instant, au Moyen-Orient. C'est vrai qu'on va repenser, hein, notre politique énergétique, et il y aura sans doute des choix à faire de ce point de vue-là.
Oui. Stéphane Séjourné s'est félicité, hein, dans un tweet sur X.
Oui.
Vous nous demandez de simplifier les normes européennes. Nous l'avons fait. Alors effectivement, vous avez un allègement sur le RGPD, sur le règlement prospectus, sur le règlement batterie. Alors, on ne va pas tous les citer. Il y en a une kyrielle, on pourrait y passer l'émission. Il y a la simplification. Il y a aussi la question de la souveraineté qui vraiment est en train d'émerger sous les coups de butoir, notamment de Donald Trump d'un côté sur le numérique, des surcapacité chinoise de l'autre. Il y a des textes intéressants qui sont sortis aussi, hein, la semaine dernière sur la souveraineté numérique. Il y a quelques semaines, l'accélérateur industriel qui promeut la préférence européenne. Est-ce que ces choses-là impactent aujourd'hui ou vous pensez vont impacter le business en Europe, Anne-Charlotte Fredenucci?
Oui, certainement, à condition que ces déclarations soient suivies des faits.
Mais voilà, c'est est-ce qu'on se paye de mots? Enfin, ma question, plus simplement, est-ce qu'on se paye de mots ou est-ce qu'on avance quand même qu'à un cas?
Alors, j'ai pas de boule de cristal pour vous dire si les déclarations d'aujourd'hui se traduiront en faits demain et notamment en investissement industriel, puisque c'est ça la vraie question. On parle de souveraineté, on veut se doter de souveraineté, mais est-ce que demain, concrètement, on va investir dans des systèmes de défense souverains, des systèmes numériques de défense souverains? Est-ce qu'on va donner aux grandes entreprises qui elles-mêmes passeront des commandes à la BITD et ainsi de suite, et notamment on verra arriver des commandes chez Ametra, est-ce qu'on va vraiment se donner les moyens? C'est ça la question, et là je n'ai pas de réponse.
Est-ce qu'il existe une préférence européenne dans le secteur de l'armement aujourd'hui, comme on en discute dans l'automobile, hein, notamment où 70% des pièces devraient être made in Europe dans l'assemblage? Est-ce que c'est des choses qui existent dans le secteur de l'armement où tout est ouvert?
Alors, on a vu quand même de nombreux contre-exemples. On a vu la Pologne commander des avions américains. On a vu de nombreux cas de commandes extra-européennes, alors qu'il existait en Europe des solutions qui auraient pu répondre.
Oui. Le Rafale, notamment.
Qui auraient pu répondre à ces problématiques. Et ça n'est pas anodin, ces choix de système américain, parce que d'abord, ça sous-entend que l'Europe n'auraient pas pu livrer ces systèmes alors qu'ils existent réellement, ces systèmes de défense, encore une fois, et toute la chaîne d'investissement que ça aurait pu générer jusqu'à des emplois chez Ametra, pour ramener à notre cas, à mon cas concret, tout ça ne s'est pas produit. Ces investissements, cet argent a été injecté aux États-Unis à la place. C'est quand même dommage.
Patrick, je voyais réagir sur l'F-35, évidemment, on pense tout à ça.
Oui, l'achat de F-35, alors il est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier ce sujet de l'OTAN qui impose aux armées européennes et aux armées américaines de coopérer, évidemment avec une puissance intellectuelle, technologique plutôt des États-Unis qui est importante. Mais je voudrais revenir sur le sujet Omnibus quand même. Il y a des petites choses qui sont sympathiques, notamment l'Omnibus 4, casse, comme quoi on peut faire simple, casse un effet de seuil qui est la taille de l'entreprise.
Oui.
Aujourd'hui, quand une PME, alors je fais attention au fact-checking, je ne vais plus citer les chiffres, mais quand une PME arrive au seuil ETI, ça y est, elle est considérée comme quasiment une multinationale, c'est-à-dire qu'elle a les mêmes obligations qu'une entreprise.
Là, c'était 250 salariés, effectivement.
Voilà,
on se heurte à un mur de réglementation de charge normative.
Voilà, il y a création d'une catégorie, une troisième catégorie, il y a PME, il y a grand groupe et il y a small mid-cap.
Et on repousse la limite à 1000 salariés
donc,
maintenant.
Ça, je pense que ça devrait, voilà. Je ne sais plus dans quel axe vous êtes. Et puis, quand on voit aussi dans Omnibus 4, il y a une mesure de simplification qui est que on a compris qu'il y avait beaucoup de formulaires papier qu'on pouvait digitaliser.
Oui.
On tombe de notre chaise.
Ouais, ça fait peur.
On tombe de notre chaise.
Oui.
Ça pose une vraie question. Alors,
oui.
Tant mieux, ça arrive. Donc, il ne faut pas critiquer, etc. Tant mieux, ça arrive. Mais, oh Dieu, que c'est long.
C'est un vrai sujet, ces franchissements de seuil. Anne-Charlotte Redenucci.
Alors, c'est un vrai sujet, franchissement de seuil. Je vais juste rebondir sur la question des formulaires papier.
Oui.
Je vous confirme que chez Ametra, on a une assistante qui a un cerveau bien fait, qui pourrait faire vraiment autre chose, qui traite plusieurs jours par mois des papiers qui arrivent, qui sont des enquêtes diverses et variées qu'on doit renseigner. Et ça, c'est du temps réel, c'est de l'argent réel qui est investi par Ametra dans ces réponses dont on ne sait pas trop à quoi elles servent. Mais pour revenir à la question du franchissement des seuils, Raphaël, oui, c'est extrêmement frustrant dans une petite ETI comme Ametra, 450 collaborateurs, de penser qu'à partir de 250, absolument, et tant mieux, de penser qu'à partir de 250 collaborateurs, ce qui ne fait pas une multinationale quand même, on est considéré au même titre que des sociétés qui comptent plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers de salariés en matière de déclaration réglementaire, en matière d'aide qu'on a le droit ou non de toucher, etc. Donc j'accueille très favorablement cette information.
Nous l'accueillons
très favorablement cette information.
Non, mais quand il y a des bonnes nouvelles, il faut savoir s'en féliciter aussi.
Si elle est vraie, mais je pense que celle-ci, elle est vraie.
C'est très intéressant parce qu'effectivement, il arrive qu'une mesure supplémentaire soit intéressante quelquefois. Voilà, on ajoute une couche en quelque sorte, mais cette couche-là, elle est productive d'efficacité.
Sur la question de la souveraineté quand même européenne, votre avis, Françoise Benhamou, est-ce que vous pensez qu'on est enfin en train de se prendre par la main en européen face au coup de boutoir à la fois des États-Unis d'un côté et face aux surcapacités chinoises qui se déversent aujourd'hui encore de manière assez tranquille, sur le vieux continent?
Cette évidence, on l'a tous en tête, et je crois évidemment les politiques et les responsables avant tout. Après, la mettre en œuvre, la mettre en action, c'est beaucoup plus compliqué. Et on le voit effectivement dans le domaine de la défense, où on continue en Europe à acheter énormément aux États-Unis avec les dépendances qui s'en suivent. Donc oui, dans les têtes, je dirais, mais il faut que ça aille très vite maintenant, et cette vitesse, on ne l'a pas.
Bon, il faut un leadership peut-être politique aussi.
Exactement. Alors, nous manque beaucoup ce qu'on appelle, de manière un peu cliché, le couple franco-allemand.
Ça manque. C'est une expression qui n'existe qu'en français d'ailleurs, pas en allemand.
Voilà,
Je le répète assez régulièrement. Est-ce que la présidentielle, Patrick, va être l'occasion de relancer tout ça? On voit Emmanuel Macron en fin de course, évidemment, le chancelier Merz pas au mieux de sa forme, et les chantiers franco-allemands type SCAF qui n'aboutissent pas. C'est très compliqué en ce moment.
Il n'y a pas de boule de cristal. Je veux pas être pessimiste parce que c'est pas le tempérament d'un dirigeant d'entreprise, mais je ne évidemment que la stabilité des pouvoirs politiques dans chacun des pays favorise une plus grande cohésion, mais j'ai le sentiment que ça va au-delà. Que évidemment les interférences des échéances électorales vont avoir un impact, mais que cela va au-delà. il y a une réflexion de fond, profonde, sur ce que nous voulons faire. C'est est-ce qu'on veut construire une zone qui a du sens, et notamment sur le plan souveraineté, ou est-ce qu'en permanence, on continue à défendre ses propres intérêts ?
Avec des enjeux qui sont la montée des nationalismes. En plus, oui, Anne-Charlotte ?
La question politique que vous soulevez, moi, me fait penser à un sujet, c'est le désalignement du temps politique et du temps économique. Et c'est encore plus vrai quand un gouvernement est fragilisé. Effectivement, et tout le monde regarde en France ce qui se passera au-delà de l'élection présidentielle dans un an, et ça signifie que dans l'année qui va venir, la parole des politiques a une valeur extrêmement limitée. Or, nous, industriels, chez Ametra par exemple, quand on investit pour 5 ans, pour 10 ans, on fait des choix économiques aujourd'hui qui vont engager nos entreprises pour une durée très supérieure à celle du temps politique. Et aujourd'hui, le désalignement est quand même particulièrement criant.
Et croît, puisqu'en plus, le temps de l'économie accélère terriblement, notamment avec les nouvelles technologies. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. Anne-Charlotte Fredenucci, présidente du groupe Ametra, Françoise Benhamou, présidente du Cercle des économistes, et Patrick Bertrand, directeur général des opérations d'Olnes, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, vous retrouvez Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spéciale croissance. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business pour une spéciale IA. D'ailleurs, ce sera en direct depuis le sommet de l'IA à Lille. Ne ratez pas cette émission spéciale. À demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.